Radio Okapi.
Nadine Fula Simba pour le journal.
Il s'est rendu hier à la MONUSCO. Thabo Taberi, alias Tcheka, chef d'un groupe armé très connu dans le territoire de Walikale, était sous mandat d'arrêt délivré par l'auditorat militaire. Son portrait est signé Gisèle Cage. Un bras de fer oppose l'Assemblée provinciale à Jean-Claude Kazembe, gouverneur du Haut-Katanga. Pour son avocat conseil, Kazembe demeure gouverneur car réhabilité par la Cour constitutionnelle. Et dans la deuxième partie, nous parlerons de la hausse du prix du ciment gris à Lubumbashi dans la rubrique Dossier. La revue de presse et le journal de sport sont également au menu de cette demi-heure d'information. Bienvenue à tous. Bonjour mesdames et messieurs, ce journal part du Nord Kivu. Il a fait reddition hier à la MONUSCO. Lui, c'est Thabo Taberi, alias Tcheka, chef de Nduma Defense of Congo, un groupe armé qui était très actif dans le Walikale et qui s'est illustré par les viols massifs des femmes dans ces territoires fin 2010. Tcheka a été sous mandat d'arrêt délivré entre 2010 et 2011 par l'auditorat militaire. Mais qui est réellement Tcheka? Voici son portrait dressé par Gisèle Cage.
Thabo Taberi est originaire de Walikale, précisément de la communauté Nyanga. C'est en 2009, après avoir escroqué un homme d'affaires à Goma, qu'il a rejoint la rébellion de FDLR à Walikale, pris sous ses ailes par le commandant FDLR Sadiki, qu'il tuera plus tard. Lui et ses hommes apprennent à manier des armes. Avec le FDLR, ainsi que les éléments du lieutenant Emmanuel Sengiyumva, ils attaquent au moins 13 villages situés sur l'axe Kibou-Mpofi entre le 30 juillet et 2 août 2010. Lors de ces attaques, il atteindra le sommet de la violence avec le viol massif de Mpofi et Luvungi. Selon le rapport des ONG de droits de l'homme, au moins 300 civils ont été victimes de ces viols. Par la même occasion, plus de 900 maisons ainsi que des boutiques sont pillées et des civils enlevés puis soumis à des travaux forcés. Après cela, l'auditorat militaire, près la cour militaire opérationnelle, lance un mandat d'arrêt provisoire contre Tcheka. Plusieurs griefs pèsent contre lui. Crimes contre l'humanité, pillage, terrorisme, mais Tcheka échappe aux mailles du filet à chaque fois qu'il est recherché par l'armée. Depuis 2012, avec la scission de son mouvement avec le départ de son adjoint Guidon, Tcheka se retrouve affaibli. Avec sa réduction, Tcheka devra rendre compte de ses actes, dont son implication dans l'assassinat en 2012 de deux officiers FARDC à Walikale, parmi lesquels le colonel Tchouma. Goma, Gisèle Cage, Radio Okapi.
À propos justement de Tcheka, la MONUSCO confirme dans un communiqué que ce dernier s'est rendu mercredi 26 juillet à Mutongo, à environ 10 km au nord de Walikale, et est transféré à Goma. La mission onusienne rappelle que Tcheka est recherché depuis 2011 après avoir été l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la justice congolaise pour crimes contre l'humanité pour viol de masse. Tcheka s'est présenté de lui-même en pleine conscience et connaissance du fait qu'il est l'objet d'un mandat d'arrêt, indique le communiqué. La MONUSCO rappelle également qu'elle s'est engagée à soutenir les autorités judiciaires compétentes menant de poursuites criminelles dans le cadre de violations de droits de l'homme conformément aux règles du droit. La MONUSCO a un accord permanent avec le gouvernement de la République démocratique du Congo qui garantit que toute personne sous sa supervision remise aux autorités nationales soit traitée dans le respect des droits de l'homme. Je le disais au sommaire, un conflit oppose l'Assemblée provinciale à Jean-Claude Kazembe, gouverneur du Haut-Katanga. L'avocat conseil de Jean-Claude Kazembe annonce que son client ne va pas démissionner et il demeure gouverneur du Haut-Katanga car il a été réhabilité par la Cour constitutionnelle. Maître Richard Bondo a fait cette déclaration hier, mercredi, à Radio Okapi Lubumbashi. Il rappelle que l'article 168 de la Constitution stipule que les décisions de la Cour constitutionnelle sont immédiatement exécutoires. Ils s'imposent aussi bien aux autorités qu'aux particuliers. D'après lui, l'élection du gouverneur et vice-gouverneur qui est organisée par la CENI dans la province du Haut-Katanga est illégale. Maître Richard Bondo est joint au téléphone par Paulin Munanga.
Le gouverneur Kazembe, il ne pourra pas démissionner. La démission n'est pas à l'ordre du jour. Pour démissionner, il faut qu'il y ait un problème. Quel est le grief? Parce qu'il a été lavé par la Cour constitutionnelle. Le gouvernement provincial n'est pas vacant. Kazembe est son gouverneur. Quand la Cour a déclaré la motion inconstitutionnelle, elle est nulle et de nul effet. Et le gouverneur est remis en selle dans son gouvernement, dans son fauteuil de gouverneur, chef du gouvernement provincial du Haut-Katanga. La CNI ne doit pas obéir à un ordre manifestement illégal. C'est l'article 28 de la Constitution. Si elle obéit, nous allons l'attaquer en justice aussi. Et si jamais la CNI organisait les élections malgré la saisine de juridiction, là, franchement, le peuple congolais retiendra qu'on n'est plus dans un état de droit comme dit à l'article 1er de la Constitution.
Élections toujours, deux candidatures ont été déposées au bureau de réception et de traitement des candidatures de la commission électorale pour l'élection du gouverneur du Kasaï central. Les candidats ont jusqu'au 30 juillet pour procéder à d'éventuels retraits, ajouts ou substitutions. Karine Damousseau nous donne plus de détails.
Martin Kabuya et Crispin Kankonde sont les deux candidats qui ont postulé au poste de gouverneur du Kasaï central. Le premier se présente comme un candidat indépendant, mais c'est un député élu en 2011 sur la liste de l'UDPS à Dibaya. Son concurrent est également un député, un élu PPRD de Kananga. Martin Kabuya se présente avec comme colistière Ida Kamonji, qui est candidate vice-gouverneur. Il se présente comme indépendant. Crispin Kankonde forme un ticket avec André Chikaï. Les deux se présentent pour le compte de la majorité présidentielle. La commission électorale prévoit de publier la liste définitive des candidats le 12 août prochain. C'est le 26 août que doit avoir lieu l'élection du nouveau gouverneur du Kasaï central qui doit succéder à Alex Kandé. La commission électorale a récemment annoncé l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 11 provinces. Une annonce qui a suscité de nombreuses réactions. Au Kasaï central, certaines organisations ont contesté la tenue de cette élection, expliquant que le gouverneur Kandé est encore en fonction. Des sources de l'Assemblée provinciale confirment qu'Alex Kandé n'a pas démissionné. Kananga, Karine Damousseau, Radio Kapi.
Restons dans le Kasaï. La situation sécuritaire permet de lancer l'opération d'enrôlement des électeurs au Kasaï central et au Kasaï. La déclaration est du président de la CENI. Corneille Nanga s'est ainsi exprimé à l'issue de la réunion du Conseil provincial de sécurité tenue hier mercredi à Kananga. Sans donner des dates précises, il a indiqué que cette opération d'enrôlement va commencer dans quelques jours. Suivez les présidents de la CENI dans ce propos recueilli par Joël Bofengo.
Ce que je retiens, c'est ce qui sort premièrement de notre réunion du Conseil provincial de sécurité. Ce que le gouverneur d'intérim nous a brossé la situation sécuritaire, qui aujourd'hui nous donne des indications claires qu'on peut lancer déjà l'opération. Sur tous les territoires, Dibaya, Chimbulu, Luisa, Kazumba, Demba, Dimbelenge et Kanangaville, la situation sécuritaire se stabilise. Il nous a donné un taux de 80% de couverture. Il nous a dit néanmoins qu'il n'y a jamais eu au monde la couverture ou bien la sécurité zéro. Avec fort donc de cet élément, nous allons commencer l'enrôlement maintenant au Kinshasa.
Retour à Kinshasa, la vice-secrétaire générale des Nations Unies a quitté Kinshasa hier à destination de Goma. Avant son départ, Amina Mohamed a été reçue par le chef de l'État, Joseph Kabila. C'était au pavillon présidentiel de l'aéroport international d'Inchili. Au micro de Radio Kapi, elle revient sur cette rencontre avec le président de la République, ses différentes rencontres avec les femmes leaders du pays et adresse également un message de soutien au peuple congolais. On l'écoute.
They must remain hopeful. They have a great country.
Je dirais qu'ils doivent garder espoir. Ils ont un grand pays. Ils ont la possibilité d'avoir un avenir meilleur. Alors, ils doivent transformer ces défis en potentialités et ne pas se décourager. Ils doivent demeurer optimistes afin de voir la lumière au bout du tunnel. Je crois que ce gouvernement va faire ce qui est juste, mais a besoin d'être soutenu. Le peuple ne doit pas être utilisé pour sous-estimer aucune partie prenante d'une démocratie grandissante. Au même moment, ils doivent continuer à exprimer leurs aspirations, car il est important que les aspirations du peuple soient réalisées par les dirigeants de ces pays.
Because it's Rendons-nous dans la province de Olomami. L'effondrement depuis près d'une semaine du pont sous la rivière Lubilanji inquiète tant les opérateurs économiques que les autorités locales. Cette interruption du trafic entre les provinces issues de l'ancien Katanga et celle de l'ancien Kasaï oriental intervient alors que la SNCC connaît des réels problèmes. Le bureau de l'Assemblée provinciale de Lomami tire la sonnette d'alarme et annonce qu'une flambée des prix s'est fait déjà sentir. Les rapporteurs du bureau de l'organe délibérant de Lomami rappellent qu'il s'agit d'une route nationale et par conséquent le gouvernement central devrait faire diligence et construire un pont adapté au trafic sur cette rivière. Les députés provinciaux Dominique Mbouyi Chikala est joint au téléphone par Chris Mukande.
Ce pont a été construit depuis l'époque coloniale. Par le fait que la SNCC, la voie ferrée est déjà vétuste et qu'il y a des grèves à répétition, les commerçants empruntent cette route nationale numéro 1 avec le ciment, avec le sucre, la farine de froment, les fers à béton. Quand ces véhicules viennent, ils payent la taxe de péage. Quand les produits sont déchargés au niveau des Monédites ou des Ngandangis, ils payent soit la taxe de consommation, soit la taxe d'expertise. C'est un manque à gagner. Nous demandons au gouvernement central, n'est-ce pas, de prendre ses responsabilités pour qu'on puisse reconstruire ce pont-là et l'adapter aux enjeux actuels et aux besoins, mettre un pont avec bascule et renforcer les contrôles de tonnage sur ce pont-là. De telle sorte que la province qui a été attaquée par la guerre des terroristes et qui a perdu de tous ses greniers agricoles qui étaient dans la province de Lomami, et si aujourd'hui nous n'avons pas un pont, je pense que la crise va s'accentuer.
Autre pont qui s'est effondré, c'est le pont Libala dans le nord Ubangi, à 85 km de Businga dans le secteur de Karawa, sur la route nationale numéro 4. Son effondrement coupe le trafic entre le nord Ubangi et les provinces de la Mongala et du sud Ubangi. Les autorités locales impuissantes devant cette catastrophe lancent un appel au gouvernement central pour sa réhabilitation. Retrouvons Dominique Wolombi Mongapangi.
Construit depuis l'époque coloniale, le pont sur la rivière Libala était rongé depuis plusieurs années par des érosions. Il ne résistait que grâce à quelques travaux d'entretien de la population. Les pluies diluviennes qui se sont abattues la semaine dernière dans les secteurs de Karawa lui ont donné sa dernière grâce. Son effondrement coupe le trafic sur l'axe routier qui relie les provinces du sud Ubangi, du nord Ubangi et de la Mongala. Sa réhabilitation nécessite des grands travaux avec de grands moyens. Voilà pourquoi le vice-gouverneur des provinces du Nord Ubangi, Jean Bosco Bosomi, demande l'intervention urgente du gouvernement central afin que l'office des routes le réhabilite. En attendant, l'arrêt du trafic sur les tronçons routiers Karawa-Businga affecte sérieusement l'économie du Nord Ubangi. Les marchés de Karawa, où les paysans écoulent leur production de café, d'arachide, de maïs et de niébé, et qui attirent les commerçants en provenance des Gemena, des Lissala et des Bumba, n'est plus accessible. Ces paysans ne savent maintenant que faire pour vendre leurs produits. Mandaka, Dominique Wolombi Mongapangé, Radio Okapi.
Clôture hier mercredi dans le territoire de Mwanda, à plus de 200 km à l'ouest de Matadi au Congo central, de la visite de travail effectuée par la délégation mixte présidence de la République, gouvernement central. Pendant deux jours, cette délégation conduite par les directeurs de cabinet du président de la République a visité quelques sites et échangé avec les opérateurs du secteur pétrolier de Mwanda. Objectif, selon les chefs de cette délégation, est de lutter contre la contrebande et la fraude. Guy Roger Nyampala nous en dit plus.
Cette délégation présidence de la République, gouvernement central, poursuit sa mission ce mercredi dans la ville de Boma. Le mardi dernier, la dite délégation a visité les entrepôts de stockage des produits pétroliers en provenance de la ville angolaise de Soyo et le poste frontalier de Yema. D'après des sources sur place, le constat fait est amer. Dans ces entrepôts, tous ces produits pétroliers stockés entrent en RDC en contrebande. Deuxième constat amer, les taxes et redevances irrelatives ne tombent pas dans le trésor public. Plus de 500 fûts de carburant pénètrent chaque jour sur le territoire congolais sans que l'État n'y trouve son compte en termes de recettes fiscales et douanières. Cela en dépit de la présence de plusieurs services commis à ces postes frontaliers. D'après les témoignages recueillis auprès des trafiquants par des sources du ministère de l'économie, les taxes dues à l'État sont bel et bien collectées à travers un redevable non autrement identifié et qui est censé les verser à l'État au nom de tous les commerçants. Enfin, cette délégation a remarqué également un déséquilibre au niveau des échanges commerciaux entre la RDC et l'Angola. La balance penche en faveur de l'Angola au niveau du poste frontalier de Yema. Matadi, Guy Roger Nyampala, Radio Okapi.
Actualité, Afrique Monde.
Nous commençons par le Mali. Un hélicoptère s'est écrasé hier mercredi dans le nord du pays, tuant les deux casques bleus allemands à bord. La MINUSMA évoque une défaillance technique pour expliquer l'accident. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du crash. Les casques bleus étaient en mission au sud de la localité des Tabakor, dans la région de Gao, quand leur appareil s'est écrasé en début d'après-midi hier mercredi. La MINUSMA a confirmé la mort de ces deux casques bleus dans un communiqué. En RCA, les agences internationales ont suspendu l'aide à Bangassou, Kaga, Bandoro et Zemio. Des dizaines de milliers de personnes risquent d'être affectées selon l'ONU. Le bureau des Nations Unies dans le pays rapporte que ces personnes ont très peu de nourriture et aucun produit de santé. Les violences rendent quasi impossible l'acheminement de l'aide dans ces différentes villes de la RCA, explique l'ONU. Aux États-Unis, la Maison-Blanche peinait hier mercredi à détailler l'application de l'interdiction aux personnes transgenres de servir dans l'armée américaine annoncée par le président américain Donald Trump sur Twitter et qui suscite des vives réactions jusque dans les rangs de républicains. C'était une décision militaire. C'est une question des préparations militaires, des cohésions de troupes et des financements au sein de l'armée et rien de plus, a expliqué le porte-parole de la Maison-Blanche. Bombarder des questions sur le sort des militaires transgenres actuellement sous les drapeaux, y compris en Irak et en Afghanistan, Mme Sanders a refusé de s'avancer sur leur démobilisation éventuelle. L'application de cette annonce sera étudiée ultérieurement avec le Pentagone, a-t-elle expliqué. Et enfin, en Corée du Sud, l'ex-directeur de cabinet de l'ex-présidente sud-coréenne destituée, Park Geun-hye, a été condamné jeudi à 3 ans de prison pour avoir placé 10 000 artistes sur une liste noire des personnalités critiques. Cette décision était aussi considérée comme une gifle à l'égard de Mme Park, actuellement jugée dans les retentissants scandales de corruption qui a précipité sa disgrâce. La campagne de répression contre ces milliers de musiciens, écrivains, cinéastes, danseurs, acteurs et plasticiens fait partie des choses reprochées à l'ancienne présidente qui a été inculpé pour 18 chefs, parmi lesquels corruption et abus de pouvoir. C'est jeudi, le tribunal du district central de Séoul a reconnu Kim Kin-chun, l'ancien directeur de cabinet, coupable d'avoir été derrière la création de la liste noire de ces artistes perçus comme critiques de l'ex-présidente conservatrice.